Bonjour à tous et bienvenue dans cette chronique boursière. Nous sommes le 20 juin 2022. Après une semaine torride et caniculaire, tant du point de vue météorologique que du point de vue du comportement des marchés, en ce début de semaine, nous nous retrouvons face à un nouveau problème majeur que nous allons devoir intégrer, la récession. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, nous n'y sommes pas encore, mais disons que de plus en plus de monde sont en train se spécialiser sur le sujet, d'intégrer la chose dans leurs décisions d'investissement. La dernière en date reste quand même le pétrole qui s'est fait défoncer par crainte de la récession. Lui qui ne pouvait plus baisser et qui était devenu un coup sûr pour à peu près tout le monde. Depuis le milieu de la semaine dernière, nous avons donc passé notre temps à digérer ce qui s'est passé sur les taux. On sait que lorsque les banques centrales montent les taux, ça n'est jamais bisance pour le marché des actions, en tous les cas dans un premier temps. On sait tous qu'une fois que le cycle est amorcé, les indices boursiers ont tendance à remonter dans la foulée, mais nous n'en sommes pas encore là. Pour le moment, nous sommes en train de prendre conscience que pour lutter contre l'inflation, il nous faut d'abord la freiner en montant les taux avant de penser à la suite. On l'a d'ailleurs très bien vu la semaine dernière, Powell monte les taux, le marché monte dans la foulée, en guise de soulagement, de le voir enfin agir franchement contre l'inflation et le lendemain, tout se pète la gueule sous prétexte que la même hausse des taux va déclencher la récession. On n'a même pas réussi à tout faire le même jour. On a dû d'abord fêter la lutte contre l'inflation et le lendemain paniquer à cause de la récession qui arrive. Mais le but de cette chronique ce matin n'est pas non plus de me moquer du comportement des marchés et de ces réactions bipolaires qu'ils sont capables de nous sortir en 48 heures. Ça n'est pas mon style et ça ne se fait pas de frapper un homme à terre. Enfin, ça dépend quand même de quel homme on parle, parce que si par exemple on parle de Mike Tyson, c'est quand même mieux de le frapper pendant qu'il est à terre pour des raisons évidentes de sécurité. Mais là n'est pas le sujet. On a donc tous bien compris que le marché est bipolaire et qu'il ne sait plus quoi faire. Il ne sait plus s'il doit fêter le fait que la lutte contre l'inflation soit prise au sérieux ou s'il doit s'inquiéter de la récession qui va inévitablement nous tomber dessus si l'on monte les taux trop fort et trop vite. La chose la plus marrante de la semaine dernière, une des choses les plus marrantes de la semaine dernière, c'est quand même le pétrole. Hein. Oui, parce que Monsieur l'or noir a encore frappé. Si l'on reprend l'histoire récente de l'or noir, on constatera que l'ensemble de la communauté financière, tout ce que le monde compte comme stratégiste, économiste ou autre expert en matières premières, tout ce petit monde était convaincu d'une seule et unique chose, le pétrole ne pouvait plus baisser et que la seule destination envisageable pour l'or noir, c'était la hausse. Toujours la hausse. Et encore la hausse. Les objectifs de tout un chacun étaient tous plus délirants les uns que les autres. Ça allait de 130 jusqu'à 200 dollars. Il y avait une forme de certitude dans ces objectifs. Les explications étaient simples et rationnelles. La demande restait forte. Les stocks sont en train de fondre comme neige au soleil. Et pour pouvoir augmenter la production, il faudrait réinvestir dans les nouvelles technologies d'extraction et de raffinage. Sauf qu'actuellement, c'est pas tellement à la mode d'investir dans les énergies fossiles. Du coup, CQFD, le pétrole ne peut faire que monter. D'où les objectifs délirants qui foisonnent dans les journaux. Sauf que, comme tout ce qui se passe en finance, tout ce qui s'est passé et tout ce qui se passera, quand c'est trop évident, c'est évidemment faux. En dehors du fait que le pétrole ne pouvait plus que monter, l'autre chose sur laquelle tout le monde était d'accord, c'est que le fait, c'est que la seule chose qui pourrait éventuellement faire baisser le pétrole, c'est une destruction de la demande. Destruction qui ne pourrait se produire, qu'en cas de récession massive et du fait que tout le monde arrête de faire le plein, que les paquebots restent à quai et que les porte-containers se mettent à naviguer à la voile ou alors ne choisissent que des océans en pente, sans compter qu'il serait bon que les avions arrêtent de voler aussi. Comme quand on était confiné, finalement. Et bien soudainement, alors que selon les chiffres, la demande de pétrole en pétrole est toujours aussi solide, en fin de semaine dernière, on s'est dit que la destruction de la demande n'était peut-être pas pour tout de suite, mais que l'on pouvait donc largement l'anticiper puisque la récession était à nos portes. C'est dans cette phase d'acceptation de voir arriver la récession que le prix du baril s'est soudainement effondré. Alors que nous caracolions autour des 120 dollars il y a encore 7 jours, voici que ce matin, le baril ne vaut plus que 107 dollars et des bricoles. Bon, par contre, c'est toujours aussi cher de faire le plein. Mais on sait dorénavant que le pétrole peut baisser et que quand tout le monde est convaincu que les certitudes sont légion dans le monde de la finance, c'est en général là que ça baisse. Le pétrole est donc la première victime collatérale du combat contre l'inflation et de l'arrivée imminente de la récession. Je dis arrivée imminente parce que si l'on en croit les derniers chiffres, plus de 44% des personnes interrogées à Wall Street pensent que la récession est déjà à nos portes. Sur les 56 qui restent, il y en a en tout cas 3 ou 4 qui pensent que l'on est déjà en récession, et le reste qui vont à l'église pour prier qu'on s'en sorte. Parmi les gens qui prient, on retrouve Madame Yellen qui espère toujours que l'on va s'en sortir, Monsieur Powell qui fait tout ce qu'il faut pour qu'on s'en sorte, même si en montant les taux trop vite, il pourrait être carrément celui qui nous met dedans. Et puis il y a aussi Monsieur Biden qui pense qu'il peut faire America great again et que les USA peuvent se défaire de l'inflation sans entrer en récession. En même temps, si Biden est aussi doué en économie qu'il l'est quand il fait du vélo, on peut craindre le pire. Le marché est donc en train d'intégrer le fait que potentiellement nous serons en récession d'ici la fin de l'année, ou mieux cet automne. On commence donc déjà à flipper sur le fait que si l'on est bientôt en récession, les chiffres trimestriels qui vont nous tomber dessus dans la première quinzaine de juillet risquent de faire très très mal, étant donné que les évaluations ont déjà été revues à la baisse, mais pas à la baisse en cas de récession. Il y a donc des ajustements qui devront être encore faits, et on connaît la façon que Wall Street a de faire des ajustements, à coup de 25% de correction, chose dont on peut largement se passer actuellement. Et puis il y a aussi le fait que tous les experts sont également de sortie pour savoir quand est-ce que tout cela va se terminer, parce que nous ne nous le cachons pas, on sait tous qu'après un bear market, il y a toujours un bull market qui sommeille. Que savoir que les bear markets ont tendance à être brefs, et que le plus important sera quand même de savoir quand est-ce qu'on peut rentrer à nouveau dedans, parce que c'est quand même là que les fortunes se construisent et que les banques encaissent des commissions quand ça monte, pas quand ça baisse. Mais alors que le pétrole et les marchés boursiers sont en train d'intégrer le fait que nous serons bientôt en récession, il y a un dernier point qui commence à tourner vinaigre, qui pourrait précipiter le marché encore un peu plus bas, lui faire son dernier gros mouvement baissier et provoquer ras-le-bol et capitulation dans le rang des investisseurs patients. C'est le marché immobilier. Les chiffres ne montent pas, les demandes d'hypothèques sont au plus bas, les taux hypothécaires, le taux des hypothèques à 30 ans aux USA sont à des niveaux qu'on n'avait plus vus depuis longtemps, et à voir ce que la Fed est en train de faire, c'est pas vraiment terminé. Pour l'instant, on veut toujours croire que la pierre reste un investissement confortable et sécurisant, mais la rapidité de la hausse des taux couplée aux incertitudes économiques, le tout saupoudré de craintes inflationnistes, risque bien de provoquer une nouvelle correction du marché de l'immobilier aux USA, ce qui pourrait être le point d'orgue de la correction entamée depuis 6 mois. Il est donc vrai que si le marché immobilier s'effondre, ça va devenir de plus en plus difficile d'être optimiste, positif et peut-être même bullish. Cependant, on sait que pas mal de choses sont en train d'être intégrées dans le prix du marché. On dit que si récession il y a, le marché pourrait baisser jusqu'à 3000 sur le S&P 500, mais qu'ensuite on aura intégré le pire et que l'on pourra se repartir pour un nouveau cycle. Loin de moi l'idée d'être trop bullish dans ces périodes compliquées, mais on sait que les cycles de bear market sont en général assez courts, et si l'on se base sur les mouvements du passé, on peut se dire que les plus bas devraient être autour des 3000 points. Sauf en cas de stagflation. Et que la fin de la baisse, si l'on tient compte des durées moyennes des bear markets, pourrait être autour de la fin octobre. De là à vous encourager à prendre de longues vacances cet été, il n'y a qu'un pas que je ne franchirai pas. Ce matin, on commence la semaine mollement, le Japon est en baisse de 1,3% et le reste ne fait rien pendant que les USA seront fermés. En effet, hier, c'était la première fois que les USA pouvaient célébrer la fête du 19 juin, appelée Juneteenth, pour fêter la fin de l'esclavage. Et comme le 19, c'était dimanche, on reporte sous le 20 juin et paf, un nouveau jour férié. En plus des doutes que l'on a sur l'arrivée de la récession, de la fin de l'inflation et de la vie et de la mort du bear market, les marchés vont continuer à s'interroger sur ce qu'il faut attendre de la suite. Les indices sont survendus à peu près partout, et si cela devait remonter un peu, ça ne serait pas forcément surprenant. Mais en attendant, on doit aussi supporter le fait que le secteur des cryptos est en train de s'effondrer et que l'on peine à trouver le fond. Ce week-end, le Bitcoin est allé chercher sous les 18 000 avant de remonter, l'Ether est passé sous les 1000 pendant un bref instant, et on se demande quand est-ce que cela va se terminer. Autant dire que les plus bearish sur le sujet sont tous de sortie pour prédire la fin du secteur, un peu comme quand on avait prédit la fin d'Amazon en l'an 2000, parce que sérieusement, qui va acheter des bouquins sur Internet ? Quoi qu'il en soit, ça n'est pas facile pour personne, et ça n'est facile pour personne, et les instabilités du marché des cryptos n'aident pas le reste du marché à se stabiliser non plus. L'or est à 1845 et le pétrole se traite à 107,78 alors que les futurs américains oscillent entre rien et pas grand chose. Dans les nouvelles du jour, on retiendra que Macron s'est pris une claque aux législatives et que la France va encore se retrouver bloquée pendant 5 ans alors que personne n'aura la majorité et que tout le monde voudra tirer la couverture à lui. Dans un move très ESG, anti-pollution et anti-réchauffement climatique, l'Allemagne vient d'annoncer qu'elle allait augmenter la production de ses centrales à charbon pour pallier au manque de gaz en provenance de la Russie, comme quoi les sanctions économiques ne sanctionnent pas forcément ce qui devait l'être à la base. En tous les cas, quand on voit ce que la Russie a encaissé comme pognon sur le pétrole via l'Inde depuis quelques mois, on se demande à quoi tout cela peut bien servir. Côté chiffres, la semaine sera chargée, surtout avec Powell qui va témoigner deux fois devant le monde politique cette semaine. Mais pour aujourd'hui, nous aurons le PPI en Allemagne ainsi que Lagarde qui parlera. Il y aura aussi Bollard, membre de la Fed, qui donnera son avis sur ce qui a été fait la semaine dernière et ce qui doit encore être fait, sachant que le mec a inventé le concept du hawkishness, on peut encore avoir une bonne occasion de rigoler. Heureusement que le marché US est fermé. Passez une excellente journée et on se retrouve demain à la même heure et au même endroit pour entamer un vrai début de semaine avec le retour des Américains. À demain.